Vous écoutez Europe 1, il est 22h. C'est l'heure du journal, Marguerite Lefèvre.
Nous sommes au tout début de cette épidémie. Il faut être très clair, lucide.
Un avertissement aujourd'hui, celui d'Emmanuel Macron. Avec 33 victimes et plus de 1700 malades, la France n'en a pas terminé avec le coronavirus, loin de là. La riposte doit s'organiser et notamment la riposte européenne. Ce coronavirus sera chaque jour au menu d'une discussion entre les 27. Un point quotidien à partir de demain afin de coordonner la lutte. Nous serons avec notre correspondante à Bruxelles, Isabelle Horry, dans ce journal. Le réquisitoire est tombé dans le procès Fillon pour avoir aggravé la déchirure du pacte républicain. Le parquet réclame 5 ans de prison, dont 2 en ferme contre François Fillon. Réquisitoire politique, selon son avocat.
Le parquet financier a démontré depuis le début qu'ils allaient avoir cette approche extrêmement ferme. Il y a une approche qui est d'ailleurs plus de principe que de droit.
À 5 jours des municipales, la maire de Paris, Anne Hidalgo, creuse l'écart sur Rachida Dati. Elle est en tête des intentions de vote. Et puis l'inquiétude d'un sélectionneur ce soir.
Elle n'a pas fait entraînement avec nous les derniers deux jours. Et on doit attendre et décider demain matin.
Thomas Tuchel, l'entraîneur du PSG face à l'angine de son attaquant star Kylian Mbappé, toujours incertain, à 24 heures du choc face à Dortmund au Parc des Princes. 6 départements sont placés en vigilance orange pour des risques d'inondation. Ne manquez pas la météo complète d'Anissa Haddadi à la fin de ce journal. Et puis comme tous les jours à 22h20, votre rendez-vous écho avec Emmanuel Dutheil. Emmanuel reçoit ce soir Jean-Philippe Ruggieri, le directeur général de Nexity.
Europe 1.
Pour la 4e fois depuis le début de l'épidémie, Emmanuel Macron s'est rendu ce matin auprès des personnels de santé, ceux qui sont en première ligne face au coronavirus et face à l'inquiétude grandissante d'une partie de la population. 33 personnes sont mortes du virus en France. Au centre d'appel du SAMU de l'hôpital Necker à Paris, le président de la République a lancé cet avertissement.
Nous ne sommes qu'au début de l'épidémie et donc la réponse proportionnée, c'est celle avec laquelle on peut vivre durablement. Et il faut d'ailleurs penser aussi à des réponses qui peuvent être, à certains égards, réversibles. Et puis la réponse, il faut assumer qu'elle sera différenciée. Parce que cette épidémie, d'ailleurs comme toutes les épidémies, elle n'est pas la même partout sur le territoire. Et nous assumons d'avoir une réponse qui est différente selon les territoires.
La France n'en a pas terminé avec cette épidémie, l'Europe non plus. Pour la première fois aujourd'hui, les chefs d'État et de gouvernements européens se sont réunis virtuellement. 27 dirigeants derrière leur téléphone et cette promesse à la clé. Tous les instruments à disposition seront utilisés pour lutter contre le coronavirus et notamment pour soutenir l'économie. Isabelle Horry, on vous retrouve en direct de Bruxelles. Vous avez suivi ce Conseil européen. Ce sont des déclarations ambitieuses ce soir.
Oui, les Européens veulent rassurer sur leur capacité à affronter cette crise ensemble. L'ambiance était grave, ils sont prêts à sortir la grosse artillerie, raconte un participant. Nous prendrons toutes les décisions nécessaires pour lutter contre l'instabilité économique et financière, promet le président de la République. Bruxelles a annoncé la création d'un fonds Corona de 25 milliards d'euros, des fonds pour soutenir les systèmes de santé, le marché du travail ou les PME. La Commission européenne promet aussi d'ici la fin de la semaine des lignes directrices pour des règles budgétaires plus flexibles. Sur le plan sanitaire, les ministres de la Santé auront désormais une réunion téléphonique une fois par jour. Il s'agit d'éviter les mesures en ordre dispersé, car tout n'est pas rose derrière cet affichage de solidarité. Dans la réunion, certains pays ont critiqué la fermeture des frontières, comme entre l'Autriche ou la Slovénie avec l'Italie. Des critiques aussi sur le manque de partage de matériel, masques et respirateurs. Sont visés l'Allemagne, mais aussi la France, qui empêche pour le moment toute exportation.
Merci, c'était les précisions d'Isabelle Horry en direct de Bruxelles pour Europe 1. Toute l'Europe désormais est touchée par le virus et notamment bien sûr l'Italie qui paye le prix fort. 168 décès dans les dernières 24 heures. Un pays totalement sous cloche. Mathieu Bock, vous vous trouvez sur place. C'est tout le pays qui tourne désormais au ralenti.
Oui, fermeture de tous les lieux touristiques dans le pays. Plusieurs compagnies aériennes comme Air France, mais aussi Ryanair ou encore Wizz Air suspendent leurs vols vers l'Italie. L'Espagne a également coupé toutes ses liaisons vers le pays. Chaque voyageur qui voudra prendre un avion ou un train devra présenter aux militaires un laissez-passer. Partout, désormais, de Milan à Rome jusqu'en Sicile, les restaurants, les bars, les discothèques ont obligation de fermer à 18h. Tous les événements sportifs de tout niveau sont également suspendus. Des mesures choc que subissent déjà les Milanais depuis plusieurs jours. Des habitants, vous allez l'entendre, qui se veulent pragmatiques.
C'est une situation qui va arriver dans d'autres pays du monde. C'est une mesure très dure, mais qui est nécessaire. Je l'accepte, hein, car le pays fait tout son possible pour s'en sortir. Je pense qu'on va réussir et que l'Italie va en sortir plus forte qu'avant.
Nous, on est sortis aujourd'hui car on avait une chose urgente à faire. Mais dorénavant, on va rester à la maison. Il faut rester à la maison.
Bon, c'est nécessaire. Il n'y a pas de discussion et probablement c'est arrivé même un peu tard. Il fallait prendre des mesures plus dures et précises, surtout un peu plus en avant.
Justement, à Milan, Mathieu, vous vous trouvez, les mesures pourraient encore se durcir?
Oui, car le président de la région Lombardie a demandé au gouvernement cette fois de vraiment tout arrêter pendant 2 semaines. Les transports en commun, qui circulent encore ici comme dans tout le pays, fermeture de tous les magasins, sauf les supermarchés et les pharmacies, toutes les administrations, toutes les entreprises, absolument tout. Le gouverneur de la Vénétie, qui est sur la même ligne, se justifie ainsi. Plutôt que de prolonger une agonie qui dure des mois, il vaut mieux une fermeture totale pendant 2 semaines afin de bloquer définitivement la progression du virus.
Merci Mathieu Bock à Milan pour Europe 1. L'Europe touchée de plein fouet, alors qu'en Chine, d'où est partie l'épidémie, les mesures de confinement appliquées à la lettre semblent enfin porter leurs fruits. Du moins, c'est ce qu'annoncent les autorités. Symbole de cette amélioration, le président Xi Jinping a visité en grande pompe la ville de Wuhan aujourd'hui, épicentre de l'épidémie. C'est une première. La correspondance en Chine de Sébastien Lebelzik.
Des cris de joie et de la musique, c'est ainsi que la télévision officielle a présenté dans les journaux du soir la première visite à Wuhan du président chinois. Masque sur le nez et entouré de militaires en treillis, Xi Jinping a fait le tour de plusieurs hôpitaux et discuté avec des médecins et des infirmières. Une visite surprise qui symbolise un retour à la normale en Chine, où l'on annonce la fin prochaine de l'épidémie et la levée progressive des mesures de confinement. Mais beaucoup cependant restent prudents, comme ce commerçant à Pékin.
Ce qui compte le plus, bien sûr, c'est que l'épidémie soit sous contrôle. Il n'y a que ça qui pourra nous aider à reprendre le travail. On ne pourrait rien faire sans tous les médecins et tous ceux qui travaillent en première ligne pour lutter contre cette épidémie.
Car si la vie reprend peu à peu, la surveillance ne s'est pas relâchée. 160 000 vigiles sont mobilisés rien qu'à Pékin pour contrôler les déplacements et l'état de santé des 23 millions d'habitants de la capitale. Certains magasins ont pu rouvrir, mais sous très haute surveillance, pas plus de 20 personnes par boutique et pas plus de 2 personnes par table dans les restaurants. Pékin, Sébastien Lebelzik, Europe 1.
Pour être tout à fait complet ce soir, sachez qu'en France, ce coronavirus impacte largement le monde sportif. En football, tous les matchs de Ligue 1 et de Ligue 2 se joueront à huis clos jusqu'au 15 avril prochain. Huis clos également pour les 2 prochains matchs des Bleus face à l'Ukraine et à la Finlande fin mars. Les 24 heures du Mans Moto prévues en avril sont également reportées au 5 et 6 septembre prochains. Enfin, le doute est levé ce soir. La garde des Sceaux, Nicole Belloubet, qui présentait certains symptômes, a été testée négative au coronavirus. Elle l'a annoncé sur son compte Twitter.
Europe 1, le journal de la nuit.
Après 10 jours d'audience, le réquisitoire est tombé dans le procès Fillon. Réquisitoire sans concession. Le parquet a réclamé tout à l'heure 5 ans de prison, dont 2 ans fermes à l'encontre de l'ancien Premier ministre. 3 ans de prison avec sursis contre son épouse Pénélope. Salomé Legrand, vous avez suivi cette journée d'audience pour Europe 1.
Et oui, durant plus de 4 heures, les procureurs ont méthodiquement pilonné la défense du couple Fillon dont ils dénoncent les habitudes de longue date de captation du crédit collaborateur avec un emploi, je cite, « inconsistant ». Quel salarié ne saurait décrire ses tâches ? Interroge Aurélien Létocard qui qualifie celle péniblement racontée par Pénélope Fillon à la barre d'impalpable et de désincarnée. Si le parquet national financier reconnaît à celle-ci un intérêt certain pour la vie locale sartoise, il pointe la mauvaise foi du couple et de ses avocats qui grossissent la moindre interaction de Pénélope Fillon sur place, triant le courrier ou faisant les courses. Une épouse attentive, certes présente, mais pas plus, explique encore le procureur, qui y voit seulement un soutien personnel, loin de toute activité professionnelle. Sur le banc, elle est immobile, écoute attentivement, lui hoche la tête exaspérée. Quant à son rôle auprès de Marc Joulot, elle travaillait moins, mais gagner plus, tacle encore le procureur qui finit par citer François Fillon lui-même en guise de conclusion. En 2014 à Cannes, celui-ci disait « La politique ne sert pas à se servir mais à servir les autres. Ce serait cocasse si ce n'était si tragique et cynique. »
5 ans de prison dont 2 ans fermes donc demandés à l'encontre de François Fillon. Un réquisitoire politique selon Antonin Lévy, son avocat.
Le parquet financier a démontré depuis le début qu'ils allaient avoir cette approche extrêmement ferme. Il y a une approche qui est d'ailleurs plus de principe que de droit. Là, on a beaucoup de punchlines, beaucoup d'éléments qui sont là pour être repris, pour bien fonctionner dans les médias. Beaucoup d'ironie, beaucoup de méchanceté, je trouve. Pas beaucoup de faits et surtout pas beaucoup de dossiers. Donc c'est bien de prendre des réquisitions lourdes, mais c'est dommage d'oublier qu'il y a un dossier qui est adossé. On ne cite pas beaucoup les multiples témoins qui ont été entendus. On balaye assez facilement les éléments qui ont été versés par la défense. Ce n'est pas du droit, c'est de la politique qu'a fait le parquet national financier.
Maître Antonin Lévy, l'avocat de François Fillon, les plaidoiries auront lieu demain. À Puisseguin, les familles des victimes dénoncent le non-lieu à venir. Il y a 5 ans, une collision entre un camion et un autocar avait fait 43 victimes en Gironde. Aujourd'hui, les juges ont achevé l'instruction sans aucune mise en examen. On se dirige donc vers un non-lieu, mais la décision finale n'est pas encore prise. Le parquet a désormais 3 mois pour prendre ses réquisitions. Et puis toujours au chapitre judiciaire, cette information qu'Europe 1 vous révélait ce matin. Une magistrate du tribunal de Nanterre a été mise en examen pour faux et usage de faux, entre autres. Elle s'était mariée avec son ex-compagnon sans son consentement, afin qu'il ne puisse pas refaire sa vie. Cette magistrate a été suspendue de ses fonctions. Elle est placée sous contrôle judiciaire. À 5 jours des élections municipales, la maire de Paris, Anne Hidalgo, fait la course en tête. C'est le résultat du dernier sondage Ipsos Soprasteria. Avec 26% des intentions de vote au premier tour, elle creuse l'écart sur Rachida Dati, qui elle stagne à 23%. Agnès Buzyn est troisième. Le candidat écologiste David Belliard, lui, ne recueille plus que 11% des intentions.
Aujourd'hui, il y a un premier tour. Il y a un premier tour avec des projets qui sont des projets singuliers. Mon projet n'est pas le même que celui d'Anne Hidalgo. Mon projet,
un peu quand même.
Mon projet, il est différent. J'ai des convergences. Vous avez peut-être noté que tout le monde aujourd'hui est écologiste. Peut-être pas Rachida Dati, mais en tout cas...
Tout le monde veut planter des arbres.
Tout le monde se dit aujourd'hui écologiste, met du vert dans son programme. Du coup, j'ai des convergences et des points communs avec tout le monde. Ici, on veut planter des arbres. Ici, on veut préserver des espaces de pleine terre contre la bétonisation. Super.
Et puis, vous avez des points de divergence, notamment pour l'Est parisien, on l'a vu.
Je me félicite de tout ça. Mais il y a un projet écologiste aujourd'hui qui est un projet de cohérence. Un projet qui dit non au béton, oui au jardin, oui aux espaces naturels.
David Belliard, candidat écologiste à la mairie de Paris. Il était l'invité de Pierre de Villeneau ce matin sur Europe 1. Une bonne nouvelle sur le front de l'emploi en France. Les créations d'emplois se sont accélérées l'an dernier. 260 000 postes ont été créés dans le secteur privé. C'est presque 100 000 de plus qu'en 2018.
Europe 1.
Ce sera leur tout premier duel ce soir aux États-Unis. Les électeurs démocrates sont appelés à départager les deux favoris de la primaire, le centriste Joe Biden et le socialiste Bernie Sanders. L'ancien vice-président Joe Biden surfe sur une série de victoires et espère prendre l'avantage. Les électeurs de 6 États sont appelés aux urnes. Les candidats Biden et Sanders, qui on l'apprend ce soir, ont décidé chacun d'annuler un meeting en raison du coronavirus. Le Conseil de sécurité de l'ONU approuve ce soir l'accord entre les États-Unis et les talibans en Afghanistan. Les membres du Conseil de sécurité ont adopté une résolution à l'unanimité. En football, bien loin des terrains, Ronaldinho est toujours en prison au Paraguay. La justice a rejeté sa demande de remise en liberté conditionnelle. L'ancien joueur du PSG, criblé de dettes, a été arrêté il y a 3 jours en possession de faux passeports. Sur le terrain, cette fois, J-1 avant le choc PSG-Dortmund, 8e de finale retour de la Ligue des Champions. Les Parisiens n'ont pas le droit à l'erreur, qui se sont inclinés 2-1 au match aller. Victoire obligatoire, sans supporters dans les tribunes au Parc des Princes, en raison du huis clos, et peut-être sans la star Kylian Mbappé. Julien Froment, Mbappé souffre d'une angine et ne s'est pas entraîné ni hier ni aujourd'hui.
En effet, grosse incertitude autour du champion du monde français. Son entraîneur Thomas Tuchel a d'ailleurs donné quelques nouvelles en milieu d'après-midi et elles ne sont pas spécialement rassurantes.
Kylian est malade, était malade hier et aujourd'hui avec une angine. Il n'a pas fait entraînement avec nous les derniers deux jours et on doit attendre et décider demain matin.
Alors Mbappé, c'est quand même l'attaquant en pleine forme ces dernières semaines. Il a inscrit 30 buts en 32 matchs. Décidément, le sort s'acharne sur le Paris Saint-Germain. Après la remontada barcelonaise de 2017, le pénalty de dernière minute de Manchester United l'an passé, le coronavirus aujourd'hui et Mbappé qui ajoute une ligne de plus au PSG qui devient de plus en plus le FC malédiction. Alors pour le reste, l'effectif est quasi au complet. Le capitaine Thiago Silva a annoncé un temps forfait, a finalement de grandes chances d'être là demain soir. Il a participé aux derniers entraînements collectifs. Et puis l'autre bonne nouvelle, et c'est bon à prendre pour les supporters parisiens, Neymar, il sera là, enfin. Le Brésilien va participer à un 8e de finale retour de la Ligue des Champions avec le PSG. Comme quoi, tout n'est pas encore perdu pour Paris, qui espère bien demain mettre Dortmund en sourdine.
En rugby, le demi de mêlée du 15 de France, Antoine Dupont, sera absent 6 semaines environ. Blessé lors du dernier match des Bleus face à l'Écosse, il souffre d'un traumatisme à l'épaule gauche. Il sera donc absent avec son club, le Stade Toulousain, et avec le 15 de France. Mais de toute façon, le dernier match du tournoi Destination avec les Bleus, qui devait se jouer samedi contre l'Irlande, a été reporté en raison du coronavirus. On passe à la météo. Anissa Haddadi, c'est une nouvelle perturbation qui arrive sur la France demain. Oui, effectivement, Marguerite, demain de la Bretagne jusqu'aux Hauts-de-France, en passant par la Normandie, là, les pluies seront assez soutenues à cause de cette perturbation qui, finalement, ne va pas traverser la France très rapidement. Elle va plutôt stagner sur le pays. Vous aurez un ciel couvert sur la moitié nord avec des pluies donc qui vont s'intensifier dans l'après-midi. Dans la moitié sud du pays, de l'Aquitaine jusqu'aux Alpes, en passant par les Pyrénées, le Golfe du Lion, la Côte d'Azur et la Corse, là, le ciel est assez dégagé avec de beaux rayons de soleil, même partout ailleurs. Et bien, des pays de la Loire jusqu'aux Ardennes, de la Gironde aux Alpes, entre ces deux parties de la France, là, et bien, c'est un ciel nuageux avec quelques averses tout au long de la journée. Le vent d'ouest souffle toujours sur le quart nord-ouest, jusqu'à 70 km/h. Soyez prudents en bord de mer. Et puis au sud, le Mistral et la Tramontagne vont souffler demain, mais beaucoup moins fort. Les températures, 6 à 10 degrés dans le sud demain matin, 10 à 11 pour le nord. Dans l'après-midi, comptez 13 à Brest et Lille, 15 pour Nantes et Nancy, 16 à Paris, 19 à Mont-de-Marsan, 21 à Lyon et jusqu'à 24 degrés demain après-midi à Nîmes.
Merci, c'était la météo signée Adissa Haddadi. Je vous rappelle cette vigilance orange étendue à 6 départements en raison des risques d'inondation. La Gironde, la Charente-Maritime, la Vendée, le Pas-de-Calais, la Seine-Maritime et l'Eure sont placés en vigilance orange en raison des inondations.
Europe 1.
Restez avec nous dans un instant, un point complet sur la bourse avec Claire Lemaître de boursier.com et juste après, Emmanuel Duteil reçoit Jean-Philippe Ruggieri, le directeur général de Nexity. A tout de suite sur Europe 1. À 22h18 sur Europe 1, c'est l'heure de parler de la bourse avec vous, Claire Lemaître de boursier.com. Bonjour Claire.
Bonjour.
Bonsoir
Marguerite,
même.
Bonsoir.
Alors encore une séance hésitante à Wall Street, mais la journée se termine en forte hausse.
Oui, Wall Street remonte après avoir signé hier sa pire séance depuis la crise financière de 2008. Le Dow Jones a plongé de près de 8%. Hier, il reprend 4,89% à 25 018 points. Très forte hausse aussi pour le Nasdaq qui reprend 4,95% à 8 344 points. Les mouvements du marché sont donc très violents. Ce soir, c'est Donald Trump qui rassure. Le président américain prépare des mesures de relance. Pourquoi pas une baisse de la fiscalité sur les salaires. Rien d'officiel ce soir. Mais les investisseurs attendent en tout cas des gestes, y compris de la Fed, la banque centrale américaine. Parmi les plus fortes hausses, on a Apple qui grimpe de 7%, la banque JP Morgan plus 7,8%, McDonald's plus 7%, Walt Disney plus 6,8%. Les cours du brut reprennent près de 10% après avoir subi hier leur plus importante chute depuis la guerre du Golfe en 1991. Le WTI repasse la barre des 34 $. Et puis du côté des devises, l'euro perd 1% et revient à 1,1327 $.
Et contrairement à Wall Street, le marché parisien n'a pas réussi à sortir la tête de l'eau aujourd'hui.
Oui, ça avait pourtant très bien démarré avec un CAC 40 qui gagnait 5% en fin de matinée. Mais c'est vraiment la nervosité qui domine et le CAC 40 perd finalement 1,51% au lendemain d'un plongeon de 8,4%. L'indice retombe ce soir à 5637 points. Les valeurs pétrolières sont bien loin de rattraper le terrain perdu hier à cause du krach pétrolier. Encore une séance très compliquée, notamment pour Technip FMC qui lâche 10%. Total reprend tout de même 1,7%, mais c'est peu, très peu, après un repli de 16% hier.
Séance mouvementée aussi, Claire, pour Air France KLM.
Oui, après un bon départ là aussi, mais ça reste très compliqué pour Air France KLM qui a transporté un peu moins de passagers en février à cause du coronavirus. L'impact devrait être encore plus lourd dans les prochains mois. Et puis Air France a annoncé ce soir que les liaisons avec l'Italie seraient coupées du 14 mars au 3 avril. L'Italie qui est le pays le plus touché en Europe par l'épidémie, Air France KLM perd 2%. Les marchés européens ont terminé en baisse, moins 1,5% pour Francfort. Londres limite la casse et perd 0,1%. Milan moins 3,3%. Madrid moins 3,2, Amsterdam moins 1,2 et à Paris, le CAC 40 perd 1,5% à 5637 points.
Merci, c'était Claire Lemaître de boursier.com. 22h20 et comme tous les soirs à la même heure, c'est votre rendez-vous éco, l'interview d'Emmanuel Duteil tous les soirs sur Europe 1. Aujourd'hui Emmanuel, on va parler immobilier, vous recevez le directeur général de Nexity.
Bonsoir Jean-Philippe Ruggieri.
Bonsoir Emmanuel.
Merci d'avoir accepté l'invitation d'Europe 1. Vous êtes le directeur général de Nexity. Nexity, c'est l'un des plus grands noms de l'immobilier, on va dire en France. En tout cas, votre métier, c'est la promotion immobilière. Quand on regarde les chiffres au global de votre fédération, ça baisse de 3%. Chez vous, ça monte de 10%. Qu'est-ce que vous faites de mieux que les autres ?
En fait, c'est la simple observation de la vie des gens qui a évolué depuis 10 ans. On ne faisait pas des résidences services seniors comme des clubs. Il y a 10 ans, l'espérance de vie a gagné. Les gens sont en bonne santé. Les étudiants aussi ont besoin d'autres chose. Et tout ça, c'est l'observation de cette vie différente. Finalement, nos clients qui avaient 2-3 vies il y a 30 ans, 2-3 vies immobilières il y a 30 ans, aujourd'hui, c'est comme les chats, ils ont 7 vies immobilières. Mmh. Et c'est en l'observant et en proposant des choses un peu différentes, des résidences intergénérationnelles, des pensions de famille aussi pour les ménages les plus fragiles, du logement très social, dans ce qui a construit finalement les villages plutôt que les morceaux de ville que nous réalisons.
Est-ce que c'est un marché qui est réellement en baisse ou est-ce qu'il n'y a tout simplement plus assez de terrain dans les zones où on a envie d'acheter sa maison ou son appartement ?
Il n'y a pas assez d'offres. La demande est extrêmement forte, justement, la démographie, l'usage, la multiplication des vies des gens, on les nécessite, c'est un problème d'offres. Et donc, vous l'avez dit, c'est un problème d'urbanisme, plus qu'un problème de terrain. En fait, des terrains, il y en a. Il y a un mouvement, et je veux croire que le renouvellement des maires à partir d'avril-mai va faire réfléchir à ça, d'arrêt de l'étalement urbain, d'arrêt de l'artificialisation des sols, et simplement, mais pas l'arrêt de la construction, la vie humaine continue. Gandhi le disait...
Si je vous comprends bien, il faut aller en hauteur.
Voilà.
Il faut construire plus haut.
Quand on fait plus haut, il faut faire plus beau. Parce que quand on fait bas, en fait, c'est discret, même si c'est moyen, finalement, ça passe. Et donc, la réflexion sur la hauteur, c'est également une réflexion très importante avec des architectes, des urbanistes, sur les matériaux et sur l'esthétique en général. Parce que là, quand on est grand, on ne peut pas se permettre d'être moche.
Mais quand on prend, par exemple, l'exemple de Paris, hein, puisque le logement est au cœur de la campagne des municipales à Paris, c'est un gros problème, justement, parce qu'ici, on a bloqué la possibilité de construire des immeubles hauts. Il faut aller jusqu'à quelle taille pour que, véritablement, on ait assez de logements ?
Alors, partout, c'est un débat dans les grandes métropoles, le logement, parce qu'il en manque, et que les gens en ont marre pour aller à leur travail de mettre une heure, ou aller amener les gamins à la crèche de mettre une heure de trajet. Et donc, il faut arriver au quart d'heure métropolitain. Pour ça, il faut monter en hauteur. C'est pas que Paris. Depuis 40 ans, la France, et si je pouvais passer un message ce soir aux futurs maires des villes qui vont être élus dans les prochaines semaines, c'est qu'elle a été bâtie par des hauteurs maximum, pour être discret, pour pas faire de l'ombre, c'est le cas de le dire physiquement même, aux voisins. Et forcément, cette politique d'urbanisme à petits pieds, eh bien, elle a conduit à l'étalement urbain. Aujourd'hui, on sait qu'il faut ramasser, qu'il faut remonter. Il y a une nécessité de parler avec les gens qui habitent déjà, donc les voisins, et d'être à la fois collaborant et concertatif. Mais à la fois, il y a l'intérêt général qui est supérieur à tout ça, qui amène à cette réflexion sur la hauteur.
Vous lancez un appel ce soir aux nouveaux maires qui vont bientôt être élus. Vous pensez être entendu ? Quand vous parlez avec eux, vous avez l'impression que ceux qui pourraient arriver aux affaires ou le rester sont décidés à aller dans ce sens ?
Je crois que oui, parce qu'on n'a plus affaire à des maires ou les futurs maires, ce que j'entends de la campagne, ne sont plus des maires égologistes, mais plutôt écologistes, au bon sens du terme. Et je veux croire que ce qui a été fait dans les grandes métropoles, vous citiez Paris, Paris a fait de gros progrès, notamment dans les dernières consultations, je pense dans le 13e arrondissement, mais aussi Toulouse, Marseille aussi, Bordeaux. Il y a des villes qui sont inspirées par des gens pour qui l'intérêt général est un peu supérieur à l'addition des intérêts particuliers.
L'autre point qui est très important, c'est celui que vous venez de dire, l'écologie, puisque vous êtes véritablement un des secteurs qui se doit d'être l'un des plus gros acteurs de cette transition écologique. De façon très concrète, tout ce qu'on construit aujourd'hui, ça nous permet de gagner quoi en matière d'écologie et comment on peut encore progresser ?
Alors d'abord, il faut faire un constat. Après les transports, la construction dans les villes est un des premiers pollueurs. Donc il faut en tenir compte, mais on vient accueillir la vie. C'est pas parce qu'on supprime la construction que les gens n'ont plus besoin de logement et qu'ils n'existent plus. Donc ça veut dire qu'il faut le faire de manière plus vertueuse. On a été déclaré, vous voyez, par une association qui s'appelle Bâtiment Basse Consommation, le promoteur le plus vertueux de l'année 2019. Très sincèrement, c'est plutôt agréable, mais c'est largement insuffisant. Ce qu'on fait... Et pas suffisant. Alors, ce que font les autres est encore
moins
bien.
Qu'est-ce que vous allez faire alors ? Parlez-nous de l'avenir là, plutôt.
Alors,
du passé.
Je vous parle d'avenir et de petits. Pas de scoop, mais de sujets sur lesquels on réfléchit.
Vous pouvez y aller si vous voulez.
On a envie d'aller vers de la construction à la fois plus éco-responsable et plus qualitative. Et pour faire ça, vraisemblablement, on va s'orienter vers de la construction préfabriquée hors site, voire industrielle. Pour le même prix en fait que le coût de la construction aujourd'hui, on soit plus qualitatif, parce que je pense qu'il y a un sujet dans les constructions neuves de qualité, et il y a un deuxième sujet d'éco-responsabilité, parce que aujourd'hui construire en bois ou en béton bas carbone ou en chanvre ou en terre crue, ça coûte beaucoup plus cher que le béton, mais c'est beaucoup plus vertueux.
Et donc ces évolutions, on peut les faire sans que nous consommateurs nous soyons obligés de payer cette transition écologique.
Exactement. Je pense qu'il y a une partie que nous devons, des entreprises de notre taille, avec le résultat, vous le disiez tout à l'heure, de Next City, avec le développement qu'on veut, on se doit de montrer le chemin et d'être éco-responsable pour les autres dans un premier temps et de prendre en notre charge une partie de ce développement. Ce sera de la recherche et du développement pour Next City.
Donc ça, c'est pour la construction d'une certaine manière, mais est-ce que pour l'aménagement aussi, on réfléchit à des choses très différentes qui permettent de consommer moins d'électricité, qui permettent de consommer moins d'eau, qui soient mieux isolées, donc on ait besoin par exemple de moins de chauffage?
Vous avez raison, avant la construction, il y a l'aménagement et l'aménagement du territoire, au-delà de ça. J'espère que Emmanuel Macron et Édouard Philippe se prononceront au mois de juin sur ces sujets-là. C'est comment tous les ménages français vont habiter en France. Et le sujet de l'énergie est un des sujets primordiaux. Est-ce que c'est du chauffage central urbain? Est-ce que c'est de la géothermie? Qu'est-ce qu'on pousse? Qu'est-ce qu'on subventionne pour le pousser aussi là-dedans? Qui dessine la préfiguration?
Et qu'on ne change pas d'avis à chaque loi de finances.
Voilà, par exemple, ce serait bien parce que ça permet de voir un peu plus loin. Et en termes d'aménagement, c'est aussi le retour de la nature en ville qui là aussi pousse vers la hauteur, parce que si vous voulez libérer de la place pour faire de la nature en ville, eh bien, il faut diminuer l'emprise au sol et donc monter vers le haut. Et c'est ce paysagement, avant même la construction, il est extrêmement important.
Eh bien, un grand merci d'être passé ce soir par les studios d'Europe 1, Jean-Philippe Ruggieri, le directeur général de Next City.
Merci, c'était l'interview écho d'Emmanuel Duteil que l'on retrouvera jeudi. Demain, pas d'interview écho puisque vous pourrez suivre le 8e de finale retour de la Ligue des Champions, PSG Dortmund. Restez avec nous dans un instant. On jette un œil sur les unes de vos quotidiens. À tout de suite. À la une de vos quotidiens demain, évidemment le coronavirus qui n'en finit plus de noircir des pages. Le bilan en France est désormais de 33 morts et l'épidémie ne fait que commencer, ce sont les termes du président de la République. Résultat, c'est un masque blanc sur fond rouge qui fait la une de Libé demain. Après l'Italie, la France, point d'interrogation. Le quotidien se projette dans un pays paralysé par le virus. L'Italie, la France et l'Union Européenne à la une des échos. Les 27 pour trouver des réponses sanitaires communes et éviter la panne économique. C'est en effet le défi après le début de semaine catastrophique sur les places boursières du monde entier. Pour les échos, ce virus lance un défi, celui de la solidarité entre les États pour éviter la crise. Le gratuit 20 minutes a décidé demain de donner la parole à ses lecteurs, pas n'importe lesquels, ceux qui sont en ce moment confinés, contraints de rester chez eux. Ils témoignent de cette expérience difficile. La Croix, pour sa part, revient sur les déclarations du pape François qui a demandé aux prêtres de sortir, d'aller voir les malades et de porter la parole de Dieu malgré l'épidémie. Le journal y voit un encouragement à ne pas se laisser gagner par la peur. Être chrétien au temps du Covid-19, c'est le dossier de la Croix demain, illustré par cette photo. Une jeune femme masquée place Saint-Pierre à Rome et cette question, ce dilemme, faut-il donc manifester sa compassion comme le demande le pape ou éviter à tout prix une éventuelle contamination? Enfin, un président masqué dans le Figaro demain, Xi Jinping, le président chinois. Il était aujourd'hui à Wuhan pour annoncer une sortie de crise. En Chine, après des semaines de confinement et de paralysie, les autorités entrevoient la fin de l'épidémie. Il n'y a jamais eu aussi peu de nouveaux cas dans le pays. La fin à venir du coronavirus, on terminera donc sur cette note plutôt positive. Voilà pour les unes de la presse. En attendant demain, il est 22h30 sur Europe 1. Place comme tous les soirs à la libre antenne avec vous Olivier Delacroix. Bonsoir Olivier.
Bonsoir Marguerite.
Votre antenne est ouverte jusqu'à 1h du matin sur Europe 1.
Exactement, et je vous dis tout à l'heure pour le flash à 23h.